Je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cet après-midi et pour demain matin. Je salue aussi toutes les personnes qui sont dans la salle Teresta Villa où la conférence est retransmise. Voilà. Nous accueillons cet après-midi le Père Jean-François Lefebvre, qui est prêtre de Notre-Dame de Vie. Il a étudié l'économie, il a fait des études bibliques à l'Université de Fribourg en Suisse et à l'École biblique de Jérusalem. Et il enseigne actuellement l'Écriture sainte ici au Studium de Notre-Dame de Vie. Il a travaillé surtout sur l'Ancien Testament, le Jubilé biblique. Et il nous introduira donc dans une réflexion à partir de Saint Paul sur la sagesse, dont je prends le titre exact. Sagesse humaine et loi divine, des livres sapientiaux à Paul.
Alors la perspective de notre colloque est celle d'un dialogue avec ceux qui ne partagent pas les présupposés de notre foi en vue de construire ensemble la cité. Qui dit vie commune dit nécessairement recherche de paix et arbitrage des conflits dans l'exercice de la justice. Qui dit justice dit aussi loi. Et capacité à connaître la loi et à juger soi-même selon la loi. Mais la loi est-elle universelle? Y a-t-il une loi qui s'appliquerait à tous? Si oui, comment la connaître? C'est sur cette base que nous allons interroger la Bible. Nous commencerons notre enquête par une lecture de ce texte de l'Épître aux Romains au chapitre 2, où sont associés les mots « loi » et « nature » et qui servent souvent de base à la réflexion théologique sur la loi naturelle. Puis nous chercherons dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, dont la théologie de Paul est pétrie, les fondements de son enseignement. Nous prolongerons ensuite notre étude dans le corpus des livres sapientiaux. Nous reviendrons alors en conclusion au texte de Paul pour en dégager l'enseignement pour aujourd'hui. Premier point, donc le jugement, la loi et la nature en Romains, chapitre 2, versets 13 à 16. Je vais commencer par situer le chapitre 2 de l'Épître. C'est dans une vaste démonstration qui couvre l'ensemble des trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains que se trouve le texte qui nous intéresse. Il importe de le resituer dans ce contexte large afin de bien comprendre quel est le propos de Paul? Le point de mire de son développement se trouve logiquement à la fin, lorsqu'il affirme la justification par la foi, en Romains 3, versets 21-31. Le but de Paul est de montrer qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le païen pour ce qui regarde la justification par la foi, qui est un fruit de la grâce divine. L'un comme l'autre en a besoin. Et la connaissance de la loi révélée à Moïse, du point de vue de Paul, ne change pas la situation du juif devant cette nécessité de la justification par la foi. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'article fondamental de la foi juive, il juge à la fois les juifs et les païens, et selon un critère commun, à savoir la foi en ce Dieu qui justifie. Pour parvenir à cette conclusion, Paul procède pas à pas. Dans un premier temps, il évoque la situation actuelle de l'humanité, où la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. C'est l'objet de Romains chapitre 1, versets 18 à 31. Il se place ensuite, dans un deuxième temps, devant l'horizon du jugement divin eschatologique. C'est l'objet de tout le chapitre 2. Paul y mentionne explicitement le jour de la colère, où se révélera le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains chapitre 2, versets 5-6. Le chapitre 2 progresse ainsi du jugement biaisé des hommes les uns sur les autres jusqu'au jugement de Dieu selon la vérité, qui clôt le développement en Romains 2, 28-29, je cite. En effet, ce n'est pas ce qui se voit qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais c'est ce qui est caché qui fait le juif, et la circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l'esprit et non de la lettre. Voilà l'homme qui reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Ce qui compte pour le jugement de Dieu, c'est la circoncision du cœur chère au prophète. Or, paradoxalement, un païen peut agir comme un homme circoncis de cœur, un homme qui porte en son cœur les exigences de l'Alliance, alors qu'il n'est pas marqué dans sa chair par la circoncision. Inversement, un juif peut transgresser la loi de Moïse et se révéler incirconcis de cœur quant à la pratique de la loi, alors qu'il est circoncis dans sa chair. L'affirmation de l'existence de justes qui méritent une rétribution pour leurs actes bons, au chapitre 2, n'empêche pas Paul d'affirmer aussitôt après, et c'est le troisième temps de sa démonstration, que tous les hommes sont sous l'empire du péché et que la loi ne fait que donner la connaissance du péché sans la justification. Viendra alors la conclusion sur la nécessité de la justification par la foi. Alors après avoir resitué ce texte, nous allons le lire ensemble. Je vais commencer au verset 13, Romains chapitre 2, verset 13 à 16. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique. Quand des païens, sans avoir de loi, font par nature les prescriptions de la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs raisonnements intérieurs qui tour à tour accusent et défendent. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les choses cachées des hommes. Il s'agit ici de l'appréciation portée sur les œuvres. Le juif sait qu'il est jugé d'après son observance de la loi de Moïse. Selon Romains 2,18, il connaît la volonté de Dieu et instruit, littéralement catéchisé par la loi, il discerne l'essentiel. Mais le païen, lui, ne connaît pas la loi selon laquelle Dieu juge le juif. Pourtant, c'est le même Dieu qui juge et le juif et le païen. Si ce Dieu est impartial, comme Paul le dit au verset 11, comment pourra-t-il juger à la fois le juif qui connaît sa volonté par la catéchèse de la loi et le païen qui ne la connaît pas? Pour résoudre cette question, Paul part d'un fait au verset 10. Il y a des païens qui, à l'instar des juifs fidèles, mettent en œuvre le bien. Comment peuvent-ils donc agir en conformité à la loi de Moïse sans la connaître? C'est pour Paul le signe que, selon son expression, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Reprenons donc les deux versets 14 et 15, en commençant par le verset 15 qui éclairera rétrospectivement l'affirmation du verset 14. Je vous relis le verset 15. Ils montrent, donc les païens, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs raisonnements intérieurs qui tour à tour accusent et défendent. Remarquons d'emblée que Paul ne dit pas que la loi elle-même est écrite dans leur cœur, mais seulement l'œuvre de la loi. L'inscription de la loi dans les cœurs était annoncée par le prophète Jérémie, mais Paul n'applique explicitement cette prophétie que dans le contexte du don de l'Esprit Saint aux chrétiens dans la deuxième épître aux Corinthiens. Il ne s'agit pas non plus des œuvres de la loi, au pluriel, à savoir les œuvres prescrites par la loi, que Paul évoque souvent pour dire précisément qu'elles ne sont pas la cause de la justification. On comprendrait mal pourquoi les œuvres extérieures de la loi seraient écrites dans le cœur. Que signifie donc cette expression étrange et unique dans le corpus paulinien, l'œuvre de la loi ? Risquons-nous à une hypothèse. L'œuvre de la loi, c'est non pas l'œuvre prescrite par la loi, mais l'œuvre que réalise la loi elle-même. Paul évoquerait ici non pas les actes de l'homme, mais l'œuvre de Dieu, celle qu'il fait dans le cœur par la loi de Moïse, à savoir l'instruction, puisque c'est le sens fondamental du mot hébreu « Torah ». C'est bien ce que Paul évoque au verset 18 à propos du juif catéchisé, catéchouménos, par la loi. Par elle, il connaît la volonté de Dieu et sait discerner l'essentiel. Il faudrait lire ici deux psaumes qui chantent les louanges de la Torah d'Israël et décrivent ses bienfaits dans le cœur du juif fidèle, le psaume 19 et le psaume 119. Écoutons simplement quelques versets du psaume 19. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, justes toujours. Pour le psalmiste, la loi du Seigneur est droite, vraie, limpide, pure, immuable et juste. Elle rend sage celui qui la pratique. C'est cela son œuvre principale, pourrait-on dire. En conséquence, elle apporte aussi le réconfort, la joie et la lumière. Elle est aussi identifiée en un raccourci très suggestif à la crainte du Seigneur. Il ne s'agit pas de la crainte servile, la peur du châtiment, mais de la crainte révérentielle que l'on pourrait assimiler à un sentiment de petitesse de l'homme devant le Dieu transcendant qu'il souhaite servir. La crainte de Dieu, nous disent les livres sapientiaux, est le commencement de la sagesse. D'après Paul, le païen qui accomplit les prescriptions de la Torah sans la connaître manifeste qu'il porte en lui, écrite dans son cœur, cette œuvre de la loi qu'est la sagesse, capacité à connaître la volonté de Dieu et de ce fait à discerner l'essentiel. Une autre manière de dire cette même réalité est la circoncision du cœur. C'est cela en définitive l'œuvre de la loi lorsqu'elle est intériorisée et qu'elle descend jusqu'au cœur du juif fidèle. Mais, et c'est là le point qui nous intéresse, Dieu peut aussi faire l'œuvre de la loi dans un cœur à qui il n'a pas donné la loi de Moïse. Ce discernement de la volonté de Dieu chez le païen ne se fait pas sans débat, car la lumière intérieure que porte en lui le païen est plus diffuse que la lumière claire des préceptes de la loi de Moïse. D'où l'évocation par Paul, toujours au verset 15, non seulement du témoignage de la conscience, synéidésis, mais aussi du travail de la raison qui tour à tour accuse ou défend. Ces deux éléments s'ajoutent à l'œuvre de la loi écrite dans les cœurs. Ainsi donc, le païen qui ne dispose pas de la loi révélée dispose néanmoins d'une capacité de discernement basée sur trois piliers. L'œuvre de la loi écrite dans son cœur, que l'on peut assimiler au don d'une sagesse, sa conscience et sa raison. Nous sommes maintenant mieux armés pour comprendre le verset 14 où sont évoquées à la fois la loi et la nature. Je relis le verset 14. Quand des païens, sans avoir de loi, font par nature les prescriptions de la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Que signifie ici ce « par nature » fuseille qui a fait couler beaucoup d'encre ? On rapproche assez souvent ce verset de Paul de la doctrine stoïcienne relative à une loi inscrite dans la nature à laquelle l'homme devrait se soumettre. Le raisonnement de Paul est cependant assez différent. Pour lui, le fait est que le païen agit conformément à une loi. Pourtant, il ne s'agit pas d'une loi inscrite dans la nature, mais, paradoxalement, de la loi révélée à Moïse, bien qu'il n'en ait pas une connaissance explicite. Cela me semble un point important. Il n'y a pas deux lois pour Paul. D'un côté, la loi de la nature, de l'autre côté, la loi de Moïse. Il y a une seule loi, la loi révélée à Moïse, mais la connaissance de la volonté de Dieu exprimée dans la loi de Moïse peut être accessible aux païens. Remarquons encore que Paul lui-même n'utilise pas ici l'expression « loi naturelle » au sens d'un code de précepte. Au contraire, il affirme clairement que les païens n'ont pas de loi. Il constate simplement qu'ils agissent comme s'ils connaissaient la loi de Moïse. Or, ils le font par nature, c'est-à-dire selon leurs conditions propres de païens, différents des juifs, qui sont eux aussi juifs par nature, et cette différence porte justement sur le fait qu'ils n'ont pas connaissance de la loi de Moïse. Il faut donc comprendre ici, derrière ce « par nature », que les païens parviennent à mettre en pratique les prescriptions de la loi, non pas du fait d'une révélation explicite de la loi de Moïse, mais du fait de cette œuvre de la loi écrite dans leur cœur, indépendamment de la révélation explicite de la loi, cette œuvre de la loi appuyée par le témoignage de leur conscience et le travail de leur raison. Par qui cette œuvre de la loi est-elle écrite dans les cœurs? Cela ne peut être que par celui qui est à la fois le Créateur, le révélateur de la loi à Moïse et le juge des derniers temps. Lorsque Paul précise en Romains 2,29 que la véritable circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l'esprit et non de la lettre, on peut penser qu'il a en tête l'œuvre de l'esprit divin dans le cœur du païen. Celui-ci accomplit les prescriptions de la loi alors qu'il est de nature incirconcis. Sans avoir connaissance de la lettre, il en a reçu mystérieusement la sagesse. Ainsi, comme le souligne Aléthi, si l'on tient compte des secrets des cœurs, il n'y a pas de séparation tranchée entre juifs et non-juifs, même si Paul ne nie pas en soi la particularité juive. Reprenons le fruit de notre enquête dans le chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Pour Paul, le jugement impartial de Dieu s'opère selon les œuvres, en tant qu'elles révèlent une fidélité intérieure à la loi de Moïse, ce que les prophètes appelaient la circoncision du cœur. L'impartialité du jugement suppose que le païen, qui ignore la loi de Moïse, puisse néanmoins en connaître la sagesse afin d'éclairer sa conscience. Ses actes bons, conformes à la volonté divine, manifestent que l'œuvre de la loi est écrite dans son cœur. C'est l'Esprit divin qui agit directement en lui, sans passer par la médiation de la lettre de la loi mosaïque. Comment comprendre cet enseignement de Paul qui semble a priori aller à rebours de la théologie de l'Alliance fondée sur l'élection d'Israël ? C'est ici qu'il nous faut revenir à l'enseignement des prophètes, chez qui la question du jugement est au cœur du message que Dieu adresse à Israël. Ce sera ma deuxième partie, le jugement des nations et le discernement chez les prophètes. Les quatre grands ensembles prophétiques, à savoir Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes, comportent tous des malédictions contre les nations. Derrière ce mot « nation », il faut voir le mot « païen » puisque c'est le même mot grec « ethnos » que l'on traduit soit par nation, soit par païen. Le fait même que les nations soient jugées par le Dieu d'Israël n'indique-t-il pas que les nations sont supposées connaître, d'une manière ou d'une autre, le message de la loi d'Israël? Prenons ici deux exemples. Le début du livre d'Amos est la satire à propos du roi de Babylone en Isaïe 14. D'abord, le début du livre d'Amos, Amos chapitre 1, verset 3 à 2, verset 16. Le livre d'Amos commence de façon brutale. Amos exerce son ministère prophétique en Israël et ce sont les habitants de ce royaume qui sont son auditoire. Pour s'adresser à eux, il commence par capter leur attention par des oracles de jugement contre leurs ennemis, six nations voisines, ainsi que le frère ennemi qu'est le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Alors seulement, il délivre son oracle de jugement à l'égard d'Israël, prenant par surprise un auditoire qui se réjouissait du jugement des autres, mais ne s'attendait pas à être jugé lui-même. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, comme chez Paul, le même Dieu juge à la fois les nations et le peuple élu. Le jugement est simultané, les oracles ont tous la même structure. Lisons le premier d'entre eux, l'oracle sur Aram. Ainsi parle le Seigneur, à cause des trois et à cause des quatre rébellions de Damas, je ne révoquerai pas mon arrêt. Parce qu'ils ont haché le Galaad sous les herses de fer, je mettrai le feu à la maison d'Azaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je ferai sauter le verrou de Damas, de Bikiat Aven. J'extirperai le monarque de Beth-Eden, celui qui tient le sceptre. Et alors le peuple d'Aram sera déporté à Kir, dit le Seigneur. Il s'agit ici de l'énoncé d'une sentence irrévocable. Comme il se doit, le jugement est motivé par le rappel du crime commis. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler des crimes de guerre à l'égard des autres nations. Pour les six nations, l'oracle mentionne le peuple, la capitale et le roi. Les deux derniers oracles qui concernent Juda et Israël ont à la fois la même structure et présentent des différences, surtout celui qui concerne Israël. Une différence importante est que le roi n'est pas mentionné. D'autre part, le reproche fait à Juda mentionne explicitement la Torah du Seigneur et ses décrets. Quant à l'oracle sur Israël, il ne mentionne pas explicitement la Torah, mais il fait explicitement référence à son contenu, aux événements racontés dans la Torah, l'histoire du patriarche Jacob et la sortie d'Égypte. Amos parle donc d'un unique événement, le jugement des peuples, opéré par le même Dieu, mais selon des critères différents. Le jugement de Juda et d'Israël a lieu à l'intérieur du cadre de l'Alliance et se réfère à la Torah. Si le roi n'est pas mentionné, c'est que, dans l'esprit du prophète, c'est la Torah qui établit la justice en Israël. Le jugement des nations, quant à lui, ne fait pas référence à la Torah. Le roi y est mentionné comme celui qui incarne le sort du peuple qu'il gouverne. Au nom de quoi les nations sont-elles jugées par le Dieu d'Israël? Alors on pourrait penser que c'est parce que les nations se sont attaquées au peuple d'Israël, mais en fait, il y a au moins un des oracles qui résiste à cette interprétation, c'est l'oracle sur Moab. Parce que ce qui est reproché à Moab, c'est d'avoir brûlé à la chaux les os du roi d'Édom. Il s'agit donc d'un conflit entre deux nations, où Israël n'est pas impliqué. Pourquoi le Dieu d'Israël se mêle-t-il d'un conflit entre les nations? Il apparaît ici comme un Dieu supranational qui n'est pas seulement le juge de son peuple, mais aussi le juge de tous les peuples. Le critère du jugement des nations ne nous est pas donné. Nous savons seulement que les nations sont jugées parce que, dans la violence qui se déchaîne lors des guerres, elles ont franchi une limite qu'elles n'auraient pas dû franchir alors même qu'elle connaissait cette limite. Il ne nous est pas possible d'aller plus loin, mais nous voyons déjà le rapprochement avec le texte de Romains 2, où un même jugement rejoint les Juifs et les païens. Ce jugement s'effectue selon une même loi, mais suivant deux modalités différentes, selon que l'on a une connaissance explicite de la loi d'Israël ou une connaissance implicite à travers certaines normes morales admises par tous. Pour reprendre une terminologie moderne, on trouve déjà chez Amos la réalité du village planétaire et peut-être même les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui crime contre l'humanité, au sens d'une limite qu'il ne faut jamais franchir sous aucun prétexte dans les rapports entre les peuples. La connaissance de cette limite est supposée chez les nations. Ce village planétaire formé d'Israël et des nations a son juge qui n'est autre que le Dieu d'Israël et sa loi, qui ne peut être qu'une loi unique, mais connue sous deux modalités différentes. On comprend alors pourquoi dans le livre d'Isaïe, les nations aspirent à la révélation du jugement authentique et de ce fait aspirent à connaître la parole du Seigneur. Je vais passer ici sur la complainte sur le roi de Babylone en Isaïe 14, où nous voyons le roi de Babylone accueilli au séjour des morts par ses collègues, les rois des nations, qui lui chantent une chanson qui le tourne en dérision, et cette chanson est appelée Machal, un terme qui veut dire aussi proverbe, énigme, et donc on est dans le registre de la sagesse. Et l'ironie de la chanson, c'est que les rois des nations soulignent la démesure dans l'orgueil du roi de Babylone qui a voulu se hisser au-dessus des étoiles, se faire l'égal de Dieu. Et on retrouverait la même critique de la ville de Babylone en Isaïe 47, où le Seigneur dit à Babylone, « Réfléchis dans ton cœur aux événements. Tu n'as pas réfléchi dans ton cœur aux événements, ni songé à leur suite, en disant, « Je suis pour toujours, perpétuellement, dominatrice. » C'est cette démesure dans la suffisance orgueilleuse qui a empêché Babylone de mener une réflexion authentique. C'est donc vers la question de la sagesse des nations et de leurs rois que nous sommes renvoyés. Dans quelle mesure les nations ont-elles accès à la sagesse qui attire la bienveillance du Dieu d'Israël? Ou n'y ont-elles pas accès? J'en arrive à ma troisième partie, où nous allons mener l'enquête dans les livres sapientiaux, où sont rassemblés, notamment dans le livre des Proverbes, des préceptes qui recueillent la sagesse populaire, peut-être aussi des récits élaborés par des sages professionnels, j'allais dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces recueils, on nous présente aussi des sages qui viennent des nations. Non seulement les gens de l'entourage du roi d'Israël, puisqu'on mentionne les gens d'Ézéchias, un roi à Jérusalem, mais aussi les sages des nations. Alors nous allons commencer notre enquête dans le livre des Proverbes, où nous verrons d'abord comment la sagesse est d'une certaine manière une école de modestie. Ensuite, nous attacherons à un recueil particulier à la fin du livre des Proverbes, les paroles d'Agour, un sage d'origine étrangère. D'abord, une école de modestie. Le sage apparaît comme un homme modeste, un homme qui sait écouter. Il suffira ici de quelques exemples de proverbes tirés dans le premier recueil des proverbes de Salomon, à partir du chapitre 10. L'homme au cœur sage accepte les ordres. L'homme aux lèvres folles court à sa perte. Dans la bouche du fou, il y a un surjon d'orgueil. Les lèvres des sages les en protègent. Le sage craint le mal et se détourne. Le sot est insolent et sûr de lui. Le sage se manifeste par une certaine discrétion, une aptitude à écouter le conseil, un réalisme qui lui fait préférer le travail patient au projet claironné sur les toits. Comme le dit le proverbe, l'arrogance précède la ruine et l'esprit altier la chute. À la base de toute sagesse, il y a la conscience des limites de l'être humain. À l'homme, les projets du cœur, au Seigneur, du Seigneur vient la réponse. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais le Seigneur pèse les esprits. L'humilité peut aussi consister à tirer les leçons de l'observation de la nature. Il y a une sagesse qui s'exprime dans la création et qui peut inspirer les êtres humains. Va voir la fourmi paresseuse. Observe ses mœurs et deviens sage. Elle qui n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef. Durant l'été, elle assure sa provende et amasse au temps de la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras en s'allongeant. Et tel un rôdeur viendra l'indigence et la disette comme un mendiant. La sagesse s'apprend non seulement en écoutant les avis des sages des générations qui précèdent, mais aussi en regardant la création. Observe et deviens sage. Ainsi s'exprime dans les livres de sagesse une théologie de la création qui ne s'appuie pas d'abord sur la relation de l'alliance, mais consiste à s'ouvrir à la pensée du Créateur. Un lieu emblématique de cette théologie de la création, complémentaire de celle de l'alliance, et l'attitude à l'égard du pauvre. Qui opprime le faible outrage son créateur, mais qui a pitié du pauvre l'honore. Qui nargue le pauvre outrage son créateur, qui rit d'un malheureux, ne restera pas impuni. Là où la loi de Moïse fait intervenir le Dieu de l'Alliance, celui qui délivra son peuple de l'Égypte, les proverbes font intervenir le Créateur, ce qui donne à leur réflexion un caractère plus universel. Après ce très rapide sondage dans le premier recueil des proverbes d'origine attribués à Salomon, nous allons maintenant nous intéresser aux paroles d'Agour au chapitre 30 du livre des proverbes. Agour est un sage originaire d'une tribu que Genèse 25-14 situe dans la descendance d'Ismaël, à savoir en Arabie. Le fait d'intégrer explicitement les paroles d'un sage étranger dans le livre des Proverbes, reçu comme livre saint, est significatif. Il témoigne de ce regard positif sur les cultures voisines d'Israël. La recherche de la sagesse est une démarche universelle. La révélation biblique accueille tout ce qui est juste et droit dans la recherche des peuples étrangers. En quoi consiste la sagesse d'Agour? Il s'agit d'abord de reconnaître ses limites devant le mystère de la sagesse avec un S majuscule, la sagesse de l'œuvre de la création. Voici le début des paroles d'Agour. Paroles d'Agour, fils de Yaqué de Massa, oracle de cet homme, je me suis fatigué. Ô Dieu, je me suis fatigué. Ô Dieu, et je suis épuisé. Comme après avoir préparé une conférence. Oui, je suis le plus stupide des hommes, sans aucune intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse et j'ignore la science des saints. Qui est monté au ciel et puis en est descendu? Qui dans ses poings a recueilli le vent? Qui dans son manteau a serré les eaux? Qui a affermi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils, si tu le sais? Le constat d'échec des versets 2 et 3 fait penser au début du livre de Coëlette, mais ici il est plutôt un signe d'humilité du sage. Et l'obligation de répondre par la négative à une succession de questions révèle les limites de cette connaissance du sage. Là encore, on est renvoyé à d'autres passages bibliques où la sagesse apparaît comme inaccessible, notamment dans le livre de Job, qui met en scène, là encore, des sages étrangers, puisque aussi bien Job que ses amis ne sont pas d'Israël. Paradoxalement, à ces questions d'Agour, dont la réponse négative est évidente, quelqu'un ose pourtant répondre. La conclusion est que c'est du Seigneur seul que peut venir la connaissance. C'est là le seul chemin sûr vers la sagesse. Réponse aux questions que je viens d'énoncer, chapitre 30, versets 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. À ces discours, n'ajoute rien, de crainte qu'il ne te reprenne et ne te tienne pour un menteur. On trouve derrière ces deux versets deux échos textuels, le psaume 18 et le chapitre 4 du Deutéronome. Et il est tout à fait significatif que la réponse aux interrogations d'un sage étranger se trouve dans la tradition d'Israël. Il faut que le Seigneur lui-même réponde à la quête de l'homme. Car si un certain degré de sagesse semble à sa portée, la sagesse en elle-même est pour lui hors de portée. On pourrait donc résumer le message des sages dans cette maxime qui ouvre le livre des Proverbes et qui revient ensuite plusieurs fois. La crainte du Seigneur, principe de savoir, les fous dédaignent sagesse et discipline. Et suit immédiatement cette autre maxime. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne méprise pas l'enseignement de ta mère. La crainte du Seigneur, la reconnaissance de la petitesse de l'homme devant son Créateur, est le commencement de la sagesse, dans la mesure où elle ouvre à l'accueil d'une sagesse plus haute. Elle se traduira aussi en écoute de l'autre, qu'il soit chargé de l'éducation ou simplement un sage parmi les amis. Comme le dit le Père Lévesque, derrière cette écoute, il y a une cohérence interne de l'agir humain qui s'accorde à la cohérence de l'œuvre cosmique du Créateur. Bref, il y a une soumission au réel qui est une façon de se soumettre au Seigneur. L'aboutissement de la réflexion des sages va aboutir à la fin de la période vétérotestamentaire dans un contexte hellénistique, à la réflexion sur les actes humains que nous présente le livre de Ben Sira. Ce sera mon dernier point dans cette troisième partie. Ce livre, qui remonte à 180 avant Jésus-Christ environ, commence de la manière suivante. La sagesse, toute sagesse vient du Seigneur, avec lui elle demeure à jamais. Avant toute chose fut créée la sagesse, de toute éternité l'intelligence prudente. La sagesse est d'emblée située comme un don du Dieu créateur. Plus loin, Ben Sira fera la jonction entre la révélation de la sagesse et la révélation de la Torah. La Torah n'est en fait que l'incarnation de la sagesse dans une charte qui doit éclairer la vie d'Israël. Laissons parler la sagesse au chapitre 24 du livre de Ben Sira. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel et ma possession sur les rayons de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Et puis suit cette phrase emblématique. Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu Très-Haut, la loi que Moïse nous a prescrite pour être le patrimoine des assemblées de Jacob. Tout cela, c'est la description de l'œuvre créatrice de la sagesse au début du chapitre 24. Celui qui cherche la sagesse la trouvera avec certitude dans la Torah d'Israël. Toutefois, avant même le don de la Torah, Ben Sira reconnaît en tout homme créé par Dieu une capacité de discernement du bien et du mal, donc une capacité de choix pour la vie ou pour la mort. Et ça, c'est assez impressionnant, ce que Deutéronome 30, dans la Torah, révélé à Moïse présente comme le choix décisif d'Israël pour l'alliance ou contre l'alliance, pour la bénédiction ou pour la malédiction, pour la vie ou pour la mort. Ben Sira le présente comme le choix qui s'offre à tout homme. Chapitre 15, versets 14 à 17. Lui-même, il s'agit de Dieu, a créé l'homme au commencement et l'a laissé à son propre conseil. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. Il a placé auprès de toi le feu et l'eau. Selon ton choix, tu peux étendre la main. Aux hommes sont proposées la vie et la mort. À chacun sera donné selon son choix. Et on est ici dans le contexte de la création de l'homme, laissé à son propre conseil. Tout homme est donc doté de son propre conseil. Et Ben Sira ajoute, plus loin, chapitre 17, « Le Seigneur a créé l'homme de la terre et il l'y fait à nouveau retourner. » Comme lui-même, il les a revêtus de force, il les a faits à son image, il les a remplis de savoir et d'intelligence, il leur a montré le bien et le mal. Il a établi sa crainte dans leur cœur pour leur montrer la magnificence de ses œuvres. Ils loueront son saint nom afin de raconter la magnificence de ses œuvres. Il leur a accordé en plus le savoir, il les a gratifiés de la loi de vie. Il a conclu avec eux une alliance éternelle, il leur a montré ses jugements. On voit ici l'articulation entre la théologie de la création et la théologie de l'alliance. Le jugement droit est capable de discerner le bien et le mal, et en réfléchissant sur le mystère de la création, il est conduit à la crainte du Seigneur qui s'exprime dans la louange. Mais ce savoir acquiert une dimension autrement plus profonde lorsque la sagesse vient au-devant de celui qui la cherche dans la révélation de la loi. Au fond, le grand conseil des sages est de savoir écouter, comme on le voit encore en Proverbes, chapitre 3, versets 1 à 4. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur observe mes préceptes. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras la faveur. » Et tu seras bien avisé aux yeux de Dieu et des hommes. L'écoute, c'est précisément le premier commandement de la Torah. Il est frappant de voir la similitude entre les conseils des sages sur l'intériorisation des avis à écrire dans le cœur et l'invitation du Deutéronome à écouter la loi. Écoute Israël, c'est au chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Il me reste, en conclusion, à revenir aux affirmations de Paul après avoir mené notre enquête dans l'Ancien Testament. Ces affirmations prennent un relief nouveau. Du fait que c'est un seul et même Dieu qui est créateur et juge, tout homme sera jugé en fonction de l'observance de la Torah, expression de la sagesse créatrice. Cette observance ne peut être qu'un don de la grâce. C'est par pure grâce, moyennant la foi, que le cœur est circoncis et qu'il devient capable de vivre l'alliance en vérité. Le fils d'Israël sera jugé en fonction de sa façon de vivre la loi qui lui fut révélée extérieurement de façon explicite. Le païen, en fonction de sa façon de vivre selon une sagesse qui le dépasse, mais qu'il peut néanmoins recevoir, pour peu qu'il ait l'humilité de reconnaître ses limites. Le spectacle de la création devrait le renvoyer à la grandeur du Créateur qui lui propose dans ses choix de s'orienter vers la vie ou vers la mort. Que pouvons-nous retirer de cet enseignement aujourd'hui dans notre désir de collaborer à la vie de la cité? On pourrait transposer le binôme juif-païen en un binôme élargi croyant-non-croyant. Dans le dialogue entre les deux, une grande leçon est peut-être d'apprendre la modestie. la conscience de ses limites, se situer soi-même dans cette modestie par rapport à la réalité des situations. C'est l'attitude du sage à l'intérieur comme à l'extérieur d'Israël. On pourrait dire aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur de la communauté croyante. N'est-ce pas le premier pas d'un dialogue qui peut miser sur cette capacité de discernement dont chaque homme fut doté au jour de sa création? Pour le croyant, cette modestie sera l'expression de la crainte du Seigneur. Pour le non-croyant, ce sera peut-être la simple conscience de ses limites humaines qui est déjà les prémices de la crainte du Seigneur, commencement de toute sagesse. Derrière ce que la tradition philosophique et théologique a désigné par « loi naturelle », la Bible nous invite peut-être à voir une quête de sagesse qui naît dans le cœur de tout homme, mais qui ne peut trouver son accomplissement que dans la révélation. La loi s'impose de l'extérieur, la sagesse se cherche à tâtons, à partir d'une quête intérieure. L'une ne va pas sans l'autre, mais dans le contexte actuel, c'est sans doute par le biais de la recherche d'une sagesse commune que l'on parviendra à dialoguer pour construire la cité sur les fondations de la justice et de la paix. Merci de votre attention.